On m'a posé cet été deux questions. On m'a demandé pourquoi il y a eu une telle horreur pédophile dans l'Église. Ce crime contre l'humanité, un crime plus répandu qu'on ne peut le croire, majoritairement au sein de familles de toutes conditions sociales. Mais pourquoi l'Église a-t-elle été ainsi si abominablement trahie? Nos pensées, nos prières vont aux victimes. Tandis que nous sommes écœurés par l'ampleur de l'abomination. La deuxième question qui m'a été posée par une autre personne dans un contexte différent a trait à l'enseignement de l'Église sur ce qu'on appelait avant les fins dernières, l'enfer, le purgatoire et le paradis. On m'a demandé si cet enseignement est toujours en vigueur. Oui, nous croyons à l'enfer, ce que l'Écriture appelle la gêne éternelle. Et ce sera possiblement le sort des prêtres pédophiles et des évêques qui auront laissé faire. Ils encourent la damnation. Pas la mort éternelle. Parce que c'est à la mesure du crime. Il y a dans l'Église un contre-pouvoir radical qui s'appelle l'enfer. Et nous l'avons entendu dans ce passage d'Évangile, Jésus dit à Pierre, Satan. Satan, le diable, veut notre damnation. Notre damnation avec lui. Parmi les éléments de compréhension, il est plus que probable que la conscience que nous avions par le passé de l'enfer, non seulement la conscience que nous en avions, mais l'enseignement que nous donnions régulièrement. Le fait, par exemple, qu'à la messe, dans le canon romain, nous demandons à Dieu de nous arracher à la damnation. Cette conscience nous préservait des dérives les plus graves. Elle nous préservait solidairement, car de même que nous serons sauvés ensemble, seront damnés ensemble les bourreaux et ceux qui avaient le pouvoir de les empêcher et qui ne l'ont pas fait. Dans le cas de ces horreurs innommables, la négligence de l'autorité n'est pas venue s'ajouter à la forfaiture des criminels. Elle en est une des causes. L'absence de contrôle a permis que ces crimes prennent une telle ampleur. L'évangile de saint Matthieu rapporte qu'un jour, les foules, voyant Jésus faire un miracle, furent, dit le texte, saisies de crainte, et elles rendirent gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Un pouvoir considérable est donné par le Christ aux prêtres. Le pouvoir de parler, d'agir au nom de Dieu, de le rendre présent dans l'Eucharistie, à la messe, de pardonner les péchés. Et on pourrait lister des différentes dimensions de ce pouvoir. Avec le danger pour lui d'oublier qui il est, un avorton, dit saint Paul. Ce n'est pas parce que nous touchons les choses saintes que nous sommes saints. Et je vous en prie, frères et sœurs, n'imaginez pas que les prêtres soient plus proches de la sainteté que la personne qui est assise à côté de vous à la messe que vous ne connaissez pas, ou du moins que les personnes les plus humbles, les plus discrètes de notre assemblée. Oui, il y a des saints dans cette paroisse, dans toute paroisse, je peux en témoigner. Mais tout pouvoir nécessite, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, tout pouvoir nécessite un contre-pouvoir, un égal contre-pouvoir, ou plutôt de multiples contre-pouvoirs. Si nous voulons empêcher les dérives qui peuvent se produire dans tous les domaines. Le domaine le plus répandu, c'est celui de la science, c'est-à-dire des connaissances intelligibles. Il y a dans l'histoire de l'Église un trésor de vérité, un trésor sans équivalent, un trésor de vérité et une constellation d'erreurs, d'approximations, de contre-vérités en tout genre, qui nécessite, qui exige prudence, tri, discernement. Un des plus grands saints, saint Augustin, a écrit au soir de sa vie un livre de rétractation où il reconnaît, il fait amende honorable de ses erreurs. La repentance qui a été engagée par saint Jean-Paul II au tournant du millénaire va exactement dans la même logique. La différence entre le Christ et l'Église tient à la divinité du Christ, il est Dieu. Au fait que, comme nous l'apprenions par le passé, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Alors que l'Église, avec l'aide de l'Esprit-Saint, a défini des conditions extrêmement restreintes de ce qu'on appelle son infaillibilité. Oui, nous croyons un certain nombre de dogmes pour assurer notre foi, pour assurer notre marche, on pourrait dire même notre ascension. Comme, pour garder cette image, comme des pitons sur une paroi pour pouvoir progresser. Et cette image de l'alpiniste est une bonne image parce que l'alpiniste, normalement, ne progresse pas seul. Il fait partie d'une cordée où les autres veillent sur lui autant que lui veille sur les autres. On se protège mutuellement dans cette ascension. C'est dans le domaine de la vie personnelle, de la vie affective, que cette protection mutuelle est la plus délicate. Autant dans l'enseignement, il est possible et assez facile de se corriger mutuellement. C'est arrivé d'ailleurs entre Paul et Pierre, on lit ça dans la lettre aux Galates, il le reprend publiquement, il le recadre. Autant c'est délicat pour tout ce qui relève de la vie personnelle. Et c'est le rôle dans l'Église de l'autorité hiérarchique. Qui va dire à un prêtre qui ne se lave pas assez, qui ne sent pas bon, qui ne se tient pas bien, qui n'est pas poli, qui n'est pas aimable, qui boit trop, enfin on peut... Qui va le dire? Vous, ces paroissiens? Déjà, vous savez déjà comment ça se passe dans une famille ou entre nous, la façon dont nombre d'hommes acceptent les reproches. Le problème n'est pas la solitude des prêtres, mais la façon dont ils peuvent être livrés à eux-mêmes. Tous les péchés commencent petits, tous. Et tous les passages à l'acte sont précédés de signaux d'alarme, annonciateurs, pour autant que quelqu'un veille. Depuis 15 ans que je suis prêtre, je n'ai jamais eu une visite impromptue de mon évêque ou de son représentant. Toujours annoncé, officiel, sonal, cadré. Jamais une visite, un passage à l'improviste. Qu'est-ce que vous penseriez, ou qu'est-ce que vous pensez, de parents qui n'entreraient jamais dans la chambre de leurs enfants? Il ne s'agit pas d'être intrusif, d'y rentrer à tout bout de champ, mais qui n'entreraient jamais dans la chambre de leurs enfants. J'en connais, ce sont les premiers à s'étonner quand il y a un problème, à dire « Quoi, mon enfant ?» Beaucoup invoquent à propos du drame pédophile le célibat des prêtres. Nous réagissons assez mal quand nous l'entendons comme une conséquence inévitable de nos frustrations, qui finiraient comme ça par exploser. Comme si la chasteté en soi était préjudiciable, comme si la sexualité était une question simplement animale. Alors même que la très grande majorité de ces crimes sont le fait de pères de famille, capables ou susceptibles d'avoir une pratique sexuelle régulière. Tout prêtre, si apparemment généreux soit-il, peut cultiver un noyau d'égoïsme dans sa vie personnelle. Et quand je dis tout prêtre, tout homme, toute personne. Et c'est ce noyau qui peut devenir cancéreux. Comme pour tous les cancers, il y a des terrains favorables et il y a des facteurs aggravants. Mais la comparaison s'arrête là. Et chaque fois qu'on la poursuit, c'est extrêmement choquant. Parce que la pédophilie n'est pas un cancer, c'est une perversion. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie du pouvoir. Ce n'est pas une maladie de l'Église. C'est une perversion inguérissable. Et c'est pour cela qu'il ne fallait pas et qu'il ne faut surtout pas les renvoyer, les laisser dans la nature. Leur retirer à jamais toute responsabilité sans les renvoyer dans la nature. Comment se fait le dépistage ? L'Évangile y répond, nous l'entendrons dimanche prochain avec la deuxième annonce de la Passion. Quand Jésus à nouveau annonce sa passion et que les disciples ne comprennent pas, ils s'égarent. Et puis, arrivés à la maison, Jésus leur demande « De quoi discutiez-vous en chemin ?» C'est la question essentielle. Qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Qu'est-ce qui occupe vos pensées ? Et il pose ce geste sur lequel il pose ce geste en prenant un petit enfant en disant « Quiconque accueille un enfant, c'est moi, c'est Dieu qui l'accueille. » Oui, vraiment, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, c'est à Dieu. Le célibat des prêtres entend les configurer au Christ, pauvres, chastes et obéissants. Parce que ce célibat des prêtres est indissociable de la pauvreté et de l'obéissance. Chez nos frères protestants, les pasteurs ont l'avantage d'être nommés et rémunérés par leur communauté. Alors que la dépendance des prêtres, du clergé catholique, à l'égard des fidèles, est très obscure. Curés et évêques devraient être préservés de ce pouvoir financier. Il ne correspond ni à la pauvreté ni à l'obéissance. De la même façon qu'il n'est pas normal que les paroisses ne soient pas consultées lors de la nomination de prêtres, qu'elles ne soient jamais informées de leur passé, de leur histoire. Le pape a raison de dire dans sa lettre que ce sujet concerne toute l'Église, parce qu'il concerne des attitudes et des relations qui font le jeu du diable. Le problème n'est pas le célibat des prêtres. Le problème est plutôt le plaisir des hommes à exercer un pouvoir et leur propension à en abuser. Voyez comment tant d'hommes mariés se comportent déjà en célibataires dans leurs décisions, dans leur choix de vie. Il faut se souvenir de la femme de Pilate. La femme de Pilate, au moment de la passion, lui fait dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Une tradition dit que Pilate finalement se serait suicidé. Et une autre tradition dit au contraire qu'il se serait converti. Voilà la question que je vous pose. Qu'en pensez-vous ? A-t-il pris le chemin du salut et du Christ comme Pierre ? Ou a-t-il pris celui de la perdition comme Judas ? Il aurait mieux valu que cet homme ne fût pas né. Il y a dans l'Église un contre-pouvoir radical qui s'appelle l'enfer. Et iront possiblement ceux qui auront commis sciemment le mal et ceux qui auraient pu l'empêcher.